une série documentaire proposée par Les Yeux Grands Ouverts. Pendant plusieurs mois, des collectifs ou associations de femmes implantées dans différents quartiers populaires de Marseille se sont réunis pour échanger sur leurs pratiques. Ces rencontres ont été initiées par Camiraca et Johanna Fidalgo pour la direction de la politique de la ville Métropole Marseille-Provence. Au cœur des échanges, les discriminations multiples et systémiques auxquelles les habitants et les habitantes de ces quartiers sont confrontés. Ces femmes luttent pour le droit au logement, à l'éducation, à la santé, au transport, ou pour faire entendre la voix des habitantes et des habitants dans les politiques de rénovation urbaine. Elles disposent souvent de peu de moyens, alors même qu'elles pallient aux carences de l'État. Leur détermination constitue la ressource principale sur laquelle elles peuvent s'appuyer. Au fil des rencontres, nous avons fait connaissance et nous leur avons proposé de faire le portrait de leur association, de leur collectif. Une manière de rendre hommage au travail colossal qu'elles accomplissent. Épisode 4, le CHO3, collectif des habitants organisés du 3e arrondissement, un entretien avec Aziza, Fatima et Amel.
Je m'appelle Aziza et je suis membre de CHO3. CHO3, c'est collectif d'habitants organisés du 3e arrondissement.
Je me nomme Mamar Fatima, je suis maman. J'habite le 3e arrondissement. Je connais le CHO3 depuis avril 2019. C'est la maîtresse de mon fils qui m'a dit que c'est intéressant, tu vas s'intégrer. Alors c'est un collectif organisé par un groupe de personnel qui habite le 3e, qui réunit tous les habitants du 3e arrondissement. Je me sens que je suis attachée et je ne peux pas quitter le quartier parce que je me sens que je suis en sécurité, je suis avec ma grande famille, voilà. Dans le coin, j'habite moi, par exemple, ici. Le CHO3, il est tout juste là. Si j'ai besoin de quelque chose, je peux appeler Aziza, par exemple. Elle est comme notre sœur. La dernière fois, moi, j'avais besoin d'un meuble de cuisine. Alors, j'ai appelé Aziza. Aziza, elle a fait un réseau. Elle a appelé tout le monde. Si quelqu'un il a une grande voiture, qui peut aider Fatima. Ça change la vie et ça nous réunit encore plus.
Comment tu as commencé à t'investir au CHO3 ?
J'ai trouvé que le CHO3, c'est des gens qui sont vraiment unis, qui sont humains. Il y a de la solidarité entre les habitants et tout le monde peut participer ici. Ils peuvent l'aider, orienter, l'organiser. Qu'est-ce que tu dois faire ? Qu'est-ce que tu ne dois pas faire ? Et on a pu savoir comment traverser ce chemin et comment s'intégrer. À la société, comment s'intégrer la société. Voilà.
Je suis Amel, je suis membre du collectif des habitants organisés du 3e arrondissement depuis voilà, 2 ans. C'est un collectif de lutte contre les discriminations et aussi, on dit souvent qu'il y a beaucoup d'amour dans ce collectif.
Ah, c'est joli. Beaucoup d'amour.
Ouais.
Qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup d'amour alors?
Parce qu'on prend soin l'un de l'autre, voilà, c'est on est des voisins qui veillent l'un sur l'autre. Et donc c'est beaucoup de tendresse et beaucoup de partage. Et je pense que si on aime l'autre, c'est aussi ça qui amène à ce qu'on soit solidaire et qu'on soit attentif à la culture de l'autre, à la situation de l'autre et à ses colères et comment nous ensemble. Quand je me suis installée dans le quartier, c'était en 2015, et je ne connaissais pas grand monde. C'est vrai que je me sentais seule. Je viens d'Algérie, et toute ma famille est là-bas. Et quand le collectif s'est créé, pour moi, ça répondait totalement à un besoin d'aller vers l'autre. Maintenant, je ne fais pas 10 pas sans dire bonjour, sauf quand je m'arrête, soit chez le marchand de légumes, soit au café. J'ai l'impression de retrouver ma culture d'origine et d'être dans ce lien permanent. Et même si des fois on discute des choses qui nous dérangent, qui nous fâchent, on n'est pas bien, on partage juste des fois des moments de galère. Et c'est pour ça que je disais au début que c'était de l'amour. On dit beaucoup que le CHO c'est de l'amour parce qu'on partage des choses aussi humaines. C'est ça qui nous nourrit, c'est ces relations. Et puis on apprend beaucoup.
Moi, je dis que CHO3, c'est une façon de lutter contre les injustices qu'ont vécues cet quartier et ses habitants. Ouh, ouh, ouh.
C'était en juin 2019, je me rappelle, d'une assemblée. On était une cinquantaine et on s'est réunis au Coin pour tous, qui est un espace qui est entre la rue Clovis-Hugues et la rue Bernard. Et on s'est réunis là parce qu'on déjà on se connaissait entre voisins. On se posait la question qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, d'injustices qui se passent sur notre quartier et sur notre arrondissement. Et comment on pourrait s'organiser ensemble pour faire changer les choses. Voilà, c'est né comme ça, la genèse du collectif est née comme ça. Et pendant cet été-là, une famille qui était menacée, ils habitaient un logement totalement insalubre et tout l'immeuble appartenait à un marchand de sommeil. Et spontanément, des voisins, des voisines sont sortis dans la rue pour manifester leur colère, qu'on ne pouvait pas mettre une famille avec six gamins dans la rue. De façade, on ne le voyait pas, mais à l'intérieur, c'était énorme comme situation indigne de logement. Et donc, on a commencé à se dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Et donc, on cherchait à savoir qui était le propriétaire. La famille qui était au rez-de-chaussée, elle a été expulsée, relogée. Et elle a attaqué le propriétaire et elle a gagné administrativement. Donc, c'était une longue lutte. Mmh. On l'a pas fait seul, on l'a fait avec d'autres collectifs, c'était Marseille en colère. Elle a été accompagnée par les juristes, etc. Et pour nous, c'était important qu'il y ait des petites batailles comme ça, qu'on gagne, pour dire qu'on peut changer les choses, même à petite échelle. Mmh. Voilà. Moi, de plus en plus, je me suis engagée dans le collectif. Et voilà, la situation sanitaire en 2020, elle a fait qu'on soit confinés et que les familles se retrouvent sans travail. Et se retrouve sans ressources et se retrouve aussi avec des difficultés à nourrir les enfants et à trouver des couches et du lait pour les enfants. Donc on a dû s'organiser, de faire en sorte qu'on laisse aucun voisin mourir de faim ou d'avoir des difficultés dans ce sens.
La période du confinement, c'était difficile pour tout le monde. Et surtout pour les gens sans papier et sans ressources, ça c'est sûr, parce qu'ils ont eu peur de faire leurs courses ou payer leur loyer. Alors avec le collectif, ils ont bien organisé. Avec les gens qui sont sans papier, ils ont fait un réseau par WhatsApp et par Facebook pour aider les gens, par des colis alimentaires, surtout les colis alimentaires.
Par exemple, il y a une association ici, ça s'appelle l'association Motamo. C'est une association linguistique, elle donne le cours de français pour les étrangers. Et cette association, ça veut dire qu'on connaît les personnes qui sont là. On a fait déjà l'amitié avec ces personnes-là. C'est pas ils viennent ici que juste pour les cours de français. C'est en même temps, on est une famille. Et en plus de ça, quand elle t'appelle, elle t'a dit « j'ai pas ça ». En plus de ça, j'ai peur, je peux pas sortir, car il y a beaucoup de contrôles. Et t'as vu pendant le confinement, tu vois une amende. Après, ça augmente, cette amende. Quand on a compris ça, on a dit « il faut trouver une solution et comment on sort de cette situation
ouais. ». On a monté une plateforme téléphonique où les familles appelaient pour dire « voilà ma situation ». Voilà ce qui se passe pour moi. Là, j'arrive pas à trouver du lait. J'arrive pas à trouver des couches. Je n'arrive pas à avoir à manger. Qu'est-ce qu'il fallait? Donc, on prenait des renseignements, on remplissait un gros fichier. Ça, c'était énorme. Un gros fichier Excel. Et à chaque fois, on mettait en face de chaque famille une famille moins dans le besoin, qu'on appelait compagnon, compagnonne.
Après, il y a quelqu'un, il ramène les courses chez les familles parce qu'eux, ils ne peuvent pas sortir. On a cherché des aides pour payer les loyers des personnes-là qui n'arrivent pas à payer les loyers parce qu'ils ne travaillent pas.
On essayait de faire face parce qu'il y avait une absence de l'État et de la métropole et des services concernés. Et donc ça a duré donc de mars à la fin avril. Et c'était une chouette expérience dans le sens où on s'est beaucoup démené et dans le sens où ça a donner bénéfice à des familles qui en avaient vraiment besoin. Et ça a créé énormément de liens. Et ça a donné une dynamique extraordinaire dans le collectif.
Le confinement, c'est quelque chose de négatif. En même temps, c'est positif. C'est grâce à cet confinement aussi qu'on a se trouvé toutes en même temps. pour discuter de nos problèmes et comment trouver la solution à ces problèmes-là. On a réfléchi ensemble pour trouver les méthodes et comment on va traverser ce chemin ensemble, sauver notre vie, comme on dit, notre vie associative et trouver notre place aussi dans cette société.
On est passé de 50 à 1200 familles. Et donc, on commençait à se connaître. Et ceux qui étaient compagnons et compagnonnes sont devenus des amis. Et donc, c'était plutôt ensemble. Oui, on a tous des colères. Et comment on fait pour changer ça? Il fallait peut-être créer nos propres ressources.
Il faut être autonome. Et comment nous, on travaille pour gagner notre vie loin de cette aide-là. Parce que des fois, il n'y a pas. Comment on va faire? Il arrive un jour, il n'y a pas. Et à partir de ça, qu'ils ont parlé, les habitants de quartier, et ils ont dit, l'autre, elle t'a dit, moi, je sais faire la couture. L'autre, elle te dit, moi, je suis coiffeuse. L'autre, elle te dit, moi, je sais... L'autre, il dit, moi, je suis chiffon. L'autre, il fait l'agriculture. Après, chacun, il a dit qu'est-ce qu'il sait faire. À partir de ça, on a fait des...
Des petits groupes pour créer des ressources. Donc, il y a un groupe garderie pour garder des enfants... Gracieusement, si des femmes, elles ont besoin d'aller travailler ou elles ont besoin juste de respirer, de souffler. Et un groupe Tiwizi qui s'est créé, qui est un groupe qui fait à manger pour des événementiels ou autres. Cet argent va dans la caisse solidarité. Il y a le groupe Cultichaud qui cultive ici dans le jardin Le Vin. Et qui, avec des partenariats avec d'autres agriculteurs, ce qui est produit est soit revendu, soit transformé pour être vendu. Et c'est comme ça que cet été, en faisant les vendanges, on a eu 500 bouteilles de jus de raisin.
Inch'Allah, on a réussi, on rentre beaucoup d'argent. On a besoin des clients. Cherche-nous les clients. Ah, vous êtes les bienvenus pour acheter. Bio et moins cher. Et pour solidarité.
Il y avait le groupe... Coupe couleur aussi pour aussi prendre soin de soi et en fait se faire du bien. Se faire du bien en même temps, c'est donnant une somme dérisoire et qui va alimenter cette cause solidaire. Et en fait, on était en contact avec une association qui s'appelle la CAIAS, hein, qui va chercher des terrains qui sont non cultivés dans le Luberon. On est parti sur ces terres et l'idée c'était qu'on participe, qu'on fasse main d'œuvre ensemble. Pour planter les pois chiches, pour faire les vendanges et avoir du jus de raisin, etc. Et rien que ces sorties-là, hormis la production elle-même, c'était une respiration pour les familles. On était une trentaine, une cinquantaine à chaque fois, et c'était juste se retrouver en plein air, sortir de la belle de mai, sortir de la ville, et respirer, et voir d'autres façons de voir les choses, et de d'échanger. Et c'est magique.
J'ai aussi participé et c'était formidable pour la vendange des raisins et pour les pois chiches aussi. On a fait aussi les pommes de terre, la vendange des pommes de terre. C'était bien passé. Par exemple, on peut ramener nos enfants, c'est comme une petite promenade. Et les enfants peuvent découvrir la région, ils peuvent découvrir l'agriculture et savoir comment faire. Par exemple, moi, je savais... même pas comment faire la vendange des raisins, alors j'ai appris. Alors on a aussi changé les recettes. Par exemple, pour les raisins, moi d'habitude, je prépare les confitures de raisins à la maison. Oui. Oui. Alors on a changé les idées, c'était vraiment, on s'est senti comme si nous sommes une grande famille.
Il y a beaucoup de discrimination à Marseille, mais aussi dans le 3e arrondissement. Elles sont plus criantes, j'ai envie de dire. On va essayer d'avancer ensemble pour essayer de les régler.
Par exemple, à Paris, à Lyon, à Toulouse, tout personne bénéficiaire de l'aide médicale d'État, il peut prendre le transport. Il y a une réduction de 50%.
Ils n'appliquent pas cette loi à Marseille. Quand dans l'été, il y a des femmes qui veulent partir nager au Prado. Le contrôle, il a rattrapé la dame avec ses enfants. Il a fait, quand elle pleure, elle pleure, elle pleure. Il a dit, regarde, je ne te fais pas une amende, mais tu fais le retour chez toi. Mmh. Elle a retourné avec les enfants, avec tout ça.
Elles se font verbaliser et avec la peur au ventre. Et beaucoup se retrouvaient avec des PV importants. C'est elles et eux qui vont faire les ménages dans les hôtels, d'une manière invisible. Ce qu'elles disaient, c'est on ne peut pas emmener nos enfants à la plage l'été, parce que ça fait de suite 20 euros l'aller-retour. Ils ne peuvent pas aller se promener, parce que c'est à la Belle de Mai, il n'y a pas où aller se promener, donc pour aller rien qu'au Vieux-Port, il faut prendre peut-être un bus ou quoi. Donc ça les empêchait de promener leurs enfants, d'aller travailler, et, ça, voilà, et d'aller vivre dans la cité.
On a cherché la loi et pourquoi là-bas il l'applique, ici il l'applique pas. On a fait toutes les recherches. Les habitants et les personnes qui ne sont pas les papiers, c'est eux qui prennent la confiance. C'est pas que tu comptes sur les autres et toi tu restes comme ça, comme un poupée. Non, tu viens, tu prends la confiance. On a travaillé sur ça, on a fait théâtre forum.
Pour que les gens, ils apprennent à prendre la parole.
Prendre la parole et comment on fait la manif. Aussi, on fait les formations, qu'on lit la loi pour que tu prends ton droit aussi. Après, on a préparé les panneaux, on a préparé tout ça.
Bonjour, on est le collectif CHO3. On est là aujourd'hui, on se bat pour l'égalité du transport pour tous les bénéficiaires d'AME, contre les injustices, parce que des autres villes, ils appliquent les réductions tarifaires pour les bénéficiaires d'AME, mais pas à Marseille. Pourquoi ? On veut savoir pourquoi.
Et on a envoyé la première lettre à main propre à la direction de l'RTM le 6 février 2021. Et on n'a pas reçu la réponse. C'est pour cela qu'on a fait la deuxième lettre, une lettre ouverte, le 25 juin 2021 à Martine Vassal. Jusqu'à maintenant, on n'a pas reçu aucune réponse.
On s'est déplacé au Faro et on a fait des chants. On a fait une chanson spéciale à Martine Vassal. Oui. Et la coïncidence, c'était avec les gens de CGT, les éboueurs. C'était leur manifestation et notre manifestation. C'était le même jour, la même heure. Contre le CGT, ils étaient proches de la porte. Par contre, nous, on était au coin. Par exemple, Aziza, Jonas et Arthur, ils ont rentré au Farou. Ils nous ont entendus à distance. On a fait des chants, qu'on a parlé. C'était une journée formidable et fatigante. Et la présence du président, il était là. Alors, on a saisi l'occasion.
On est devant le Faro. Il y a les élus qui arrivent maintenant parce qu'ils ont un conseil maintenant. Et là, il y a des personnes sans papier, les bénéficiaires d'AME. On demande de la réduction parce qu'il y en a plus de 13 000 personnes bénéficiaires d'AME à Marseille. Et on demande pour nous et pour eux. Voilà, et on ne lâchera pas, on ne lâchera jamais. C'est jusqu'à
ce qu'on gagne. Oh là là là, respectez la loi mobilité. Martine Vassal doit appliquer les réductions pour les sans-papiers. Paris-Lyon, loi est appliquée. À Marseille, et quoi, c'est quand l'égalité.
Oui. Les autres, ils chantent, ils délèrent les droits avec le parlol et tout. Et ça tourne avec tout le monde pour comme ça, tout le monde il participe, tout le monde il prend l'habitude à faire les manifs et tout ça. Ils chantent, il y a des personnes, ils fatiguent, ils changent le groupe avec le groupe. Celle-là, elle chante, après elle arrive pas, elle donne à l'autre le micro. Ça tourne et comme ça.
Ça a pris combien de temps ce combat ?
On dit un nom comme ça, nom et... Il y a des choses, elles sont lourdes. Des fois, on utilise le théâtre. Des fois, on a fait la chanson. On le prend pour être pas en colère, être pas en tristesse. Toujours, il y a l'espoir. Des fois, on fait les scènes, on rigole, on prépare. Quand tu fais théâtre forum, tu fais l'image, tu fais ça, tu fais... Mais des fois, on prend en rigolant. Ça veut dire qu'on travaille, en même temps, être forte. Mais c'est pas la fin du monde. On arrive. C'est pas aujourd'hui. L'essentiel, on a cette patience pour obtenir notre objectif, obtenir qu'est-ce qu'on veut.
Pour les moments de découragement, puisque la loi, elle dit ça, c'est-à-dire on a droit, on doit l'avoir. C'est-à-dire on doit lutter, on doit résister.
Avant 2017, on fait l'atelier de petit-déj. Ce atelier-là, on travaille sur, comme je répète tout le temps, connaître la loi pour prendre tes droits. Et à partir de ça, chacun, il parle de les discriminations qu'il a vécues. Il y a des personnes qui parlaient de la santé. Il y a des personnes qui parlaient de l'artillerie. C'est ça, le premier jour où la sortie des discriminations.
Les luttes là, que vous menez actuellement, c'est autour de, donc, du logement.
Compte bancaire.
C'est quoi ça?
Le compte postal. Pas mal de gens, lorsqu'ils se déplacent à la poste pour ouvrir un livret A, toujours le conseiller dit non, tu n'as pas de papier, tu n'as pas le droit. Une amie à moi, elle m'a ramené à la poste, j'ai leur conseillé pour que je ouvre un compte postal. J'avais toujours mon visa touristique, il a dit non. Elle a un visa, tu peux pas. Alors, on s'est déplacé à une autre poste. Il a dit pareil. Elle est sous visa, on peut pas. Après, une femme, mon visa est grillé. Avec ma copine, on s'est déplacé au conseiller. Il a dit non, elle n'a pas de papier. On peut pas lui faire un compte postal. Alors, comment ça? J'avais le visa. Vous m'avez dit non. J'avais pas de visa, j'avais rien. Vous disiez non. Alors, comment on doit faire? C'était toujours un cercle vicieux.
T'as pas le droit pour rentrer? Même pour elle, tu demandes les renseignements, tu n'as pas le droit. Après, on insiste. Après, les agents, ils ne veulent pas. Après, on dit moindre des choses. Vous ne pouvez pas nous laisser rentrer. Dis à quelqu'un de votre responsable, il vient ici, il ne parle. Après, elle a descendu quelqu'un, ne parler, mais il a dit, nous, on ne peut rien faire. Après, on a fait, qu'est-ce qu'il a passé là-bas? On a joué une scène. Avec les habitants, comme ça, comment ils réagissent la prochaine fois quand ils partent là-bas.
Ah oui.
Oui, on a fait beaucoup. Après, il y a des propositions, parce que quand tu rentres dans le jeu, chacun, il trouve une idée.
Moi, je trouve ça important de raconter les victoires, parce que quand même, ça donne du courage.
Moi, je trouve le victoire quand ces femmes-là, maintenant, être autonomes, je trouve, moi, c'est victoire. Mmh. Quand ils ne pleurent pas maintenant, parce que la plupart, ils ne sont pas des papiers, et que maintenant, ils ont la confiance. Il y a quelqu'un d'habitant de CHO3, avant, elle a eu peur. Ils sont fait voler son portable. Elle est sans papier. Elle a parti à la police, elle a fait la plainte. Quand il a dit, le policier, passe-moi ta carte d'identité, elle m'a dit, j'ai pas de papier. Il a dit, chapeau, tu es venue ici chez nous. Elle m'a dit, avant, j'ai peur. Quand je vais à la police, je me fuis. Maintenant, tellement j'ai pris la confiance... Et je sais mes droits. Et c'est quoi, il dit la loi? Voilà. J'ai osé partir, j'ai fait la plainte, ma tête en haut. Je ne suppliais pas.
On a gagné une bataille. Alors, il nous reste 2 ou 3. On n'a pas encore... gagner la victoire des mal logés, mais on va réessayer une autre fois, pas juste pour les sans-papiers, mais c'est presque pour tout le monde. Par exemple, il y a des propriétaires qui ont des maisons qui sont vraiment
insalubres,
défavorables. Ils obligent aux locataires de payer le loyer, ils ne réparent pas au niveau de la plomberie ou au niveau du chauffage ou au niveau de l'électricité, ils ne réparent pas. Et si la personne déclare au propriétaire qu'il y a une fuite ou il y a, par exemple, les cafards ou il y a des trucs, il faut le traitement ou il faut réparer quelque chose, alors le propriétaire, il s'en fout. Mais pour le loyer, il l'oblige de payer. Il l'oblige de payer. Et s'il ne paye pas, il va réclamer ou il va lui faire expulser.
C'est pour ça qu'on fait formation sur mal logement. Les bâtiments, déjà, elle est horrible. Plus de ça, il le fait payer. Comment on dit l'agence, elle envoie direct toujours les factures de charges. Plus. On a parti à son agence et comme ça, on a réglé le problème parce que pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça? Vous n'avez pas le droit de faire ça et ça et ça. Après, ils ont levé cette facture. Et à l'autre aussi, quand elle rentre dans la toilette, ça, il y tombe le blafaud de ça et il y tombe. Après, qu'est-ce qu'on a fait avec le propriétaire et tout? Elle est partie à l'hôtel. Le moment qu'il a réparé sa maison bien comme il faut, et c'est lui qui l'a s'occupé de tout. Parce qu'avant, non. On a fait les manifs sur le mal logement. On a fait beaucoup les luttes au début parce qu'on a fait porte à porte.
Voici ce message, l'une d'une habitante de 3e arrondissement. Sans titre de séjour. Je suis en colère quand je me trouve seule avec mes enfants face à des personnes qui profitent de ma situation vulnérable pour me louer un taudis. Ne vous laissez pas faire pour celles et ceux qui profitent de vous. Vous avez vos droits. Oui, j'ai mes droits. Vous avez vos droits. Vous pouvez m'organiser avec d'autres pour les réclamer. Et je vous remercie.
Campagne contre le mal logement qui est en cours, le droit à la ville, on se bat pour le jardin Leva pour qu'il soit populaire et ouvert tous les jours, parce qu'on a, c'est le seul petit poumon d'espace vert qu'il y a dans le coin. La mairie elle a décidé de confier ça à Juxtapose et Juxtapose n'ouvre qu'un samedi par mois.
Par exemple, ils font quoi ?
Dans la semaine, c'est ouvert de 9h à 17h. Quand on sait qu'on récupère ses enfants à 4h30 et que il va y avoir une réunion sur le journal Leva et ils vont écrire collectivement pour saisir la mairie pour dire on n'est pas d'accord ce qui se passe.
Moi, c'est Frédéric, des Amis du Jardin Leva. Et en fait, Juxtapose, c'est l'association qui a en gestion le lieu couvent Leva et le jardin jusqu'à présent. Et c'est une association donc, qui a été mise ici par l'ancienne mairie. Bon, officiellement, voilà, pour prendre possession du lieu, pour gérer le lieu. Et l'objet social de cette association, c'est de donner un prix très bas des ateliers à des artistes.
Et les artistes, c'est qui alors, les artistes qui viennent ici en résidence
J'ai aucune idée, franchement. Franchement, on ne les voit pas. Et les artistes, ils ne sont pas du tout là pour entretenir des liens avec le lieu où ils sont. C'est juste parce que c'est un lieu pas cher où faire de leurs activités. C'est déjà génial parce que les artistes, effectivement, ont besoin de lieux comme ça. Mais comme leur but, ce n'est pas l'ouverture du jardin, ils n'ont pas intérêt, en fait, à ouvrir le jardin. Pour eux, le jardin, c'est un outil pour l'été, donc, faire des fêtes, des concerts, des événements, des gros événements. pour vendre de la bière, pour pouvoir donc après faire un prix très très bas de l'occasion des ateliers. Donc en fait, le jardin, l'été, il est surexploité par Juxtapose. Le gros souci un peu qu'on a ici, en fait, c'est cette disparité d'usage, parce que l'hiver, notamment l'hiver, de 9h à 17h en semaine, donc ils n'ouvrent pas le week-end, ils n'ouvrent pas le soir après 17h.
C'est quand même incroyable que la mairie ait donné un lieu pareil, avec un jardin pareil, dans un quartier où il n'y a aucun espace vert, de donner ça à une association sans condition d'accès aux habitantes et aux habitants du quartier.
C'est ça exactement. C'est la mairie qui est très fautive dans ça. Mmh. Exactement. Donc on espère qu'avec le cahier des charges et avec cette lettre qu'on m'a envoyée, on va mettre les choses à plat, en clair.
Oui, on cherche, on a besoin de local et un grand espace. Des fois, tu ne trouves pas la frate, tu vas devant au jardin Levin, des fois, tu ne trouves au comptoir de la Victorine, des fois.
Par exemple, pour la cuisine, on n'a pas de local aussi. Il y a d'autres associations qui nous demandent de préparer les repas qui rentrent dans la caisse de solidarité. Alors, on ne trouve pas de cuisine. Pour faire des ateliers pour enfants ou pour maman, il n'y a pas. On a besoin d'un espace pour faire les ateliers, d'un local, pour se réunir, voilà. Pour se connaître, pour...
Pour se retrouver, partager, pratiquer notre activité, on est obligé. Hein. Comme tu n'as pas un toit, tu es dans la rue.
Et la question que je voulais aussi poser, donc du coup, l'argent que vous ramassez grâce à la vente du jus de raisin et du coulis de tomate, après, l'argent, il est réparti comment?
Ils se réunissent tous et c'est eux qui décident comment ils partagent cet argent-là. Et c'est eux qui vont faire les règles à cet argent-là et c'est eux qui disent comment et je ne sais pas quoi. C'est eux.
D'accord, donc c'est les personnes qui ont participé, qui ont participé à la production du jus de raisin et du coulis de tomate qui vont décider ensemble ce qu'ils vont faire avec l'argent.
C'est eux qui décident.
Plusieurs fois, Fatima, tu as parlé des responsables du CHO.
C'est ça que je veux parler.
Ah, voilà. Ah.
Ça, tu l'apprends là. C'est ça que je veux aider. Oh, je te jure, je veux le parler, tu l'apprends. Pourquoi tu dis les responsables à chaque fois? Je dis, et pourquoi tu le répètes? C'est ça, je le dis à chaque fois, elle dit les responsables, responsables. Il n'y a pas de responsable, elle dit tout, dit tout. Et il supprime ses mots. Chaque mois, on fait une formation porte-parole du CHO3, parce qu'il y a des nouvelles personnes qui rentrent à chaque fois.
Il y a vraiment un désir d'horizontalité au CHO. Et donc, du coup, entre les familles qui ont plus de difficultés, soit parce qu'elles sont en situation irrégulière, soit parce qu'elles ne savent pas écrire, qu'elles ne savent pas lire ou qu'elles ne savent pas parler le français. Du coup, comment vous avez réglé cette question-là? C'est-à-dire que ce ne soit pas... Alors, il y a des personnes qui utilisent l'expression « sachant », que ce ne soit pas les sachants qui fassent à la place d'eux.
Dans la réunion, on parle, on peut s'exprimer avec sa langue. C'est très important. Que ce soit du Comorien ou de l'arabe ou en albanais, en tout cas, tout est possible et on traduit. Donc la personne peut dire sa colère avec sa langue et après, c'est traduit. Donc il y a toujours quelqu'un qui traduit de l'arabe au français, du Comorien au français, de façon à ce qu'on puisse, toutes les idées et toutes les possibilités sont réfléchies ensemble. Donc ça, c'est... Et quand la personne ne comprend pas ou quoi, elle dit, je ne comprends pas, des fois, il y a des mots techniques, etc. Et pareil, c'est traduit dans la langue, etc. Et c'était important. Et toutes nos lettres d'information, tous les messages importants qu'on fait, ils sont traduits au moins en deux langues. En français, en arabe et en comorien. Wow. Voilà. Systématiquement, pour que l'information puisse circuler d'une manière horizontale et que tout le monde puisse avoir cette information. Donc, pendant ces 2 ans, on a fait des lettres d'information par mail, qui sont traduites, des SMS, on a des groupes WhatsApp où l'information est traduite aussi.
Et du coup, ça doit faire des réunions qui durent très longtemps, non?
Oui, mais il faut ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut. Et on a reçu les zapatistes, un groupe de zapatistes qui était de passage à Marseille. Ils nous disaient aussi, ils prenaient le temps de traduire. C'est important qu'on part de la même place.
Marhaba Menji, Nyuandrika Ongamrangaliao, ngari mdane salamu assalamu alaikum ngari shukuria ngari shukuriawo ye group association hashitra wanrika wanre fikira ya hurisaidia si wanrika warikana ze aid medical rifanya bwana ranzi mwa de septembre 2020 rendele azen bwana zinu hata usiku wale wa hunu risari hunru shinzi haini mrika ungena aid medical ngena ruhusa yende ya hunde reduction ya he aid medical ya hahe yafanye karti ya bisi ha 25 euro ujoju wa mono hamadeli mwarona baha valari la usharje tike ndugu joju wa ya bale tike hahe yende ya ibeho mahalani ya lazimu ya balie fotokopi ya he aid medical ya he kangi o valablo ngerumishi hawa mbri ya balie ne karti ya bisi ya hahe yende o mahalani ya lazimu ya sharje wa tike hahe yende ya sharje tike hahe apange ngari mwambia oni nyiwana nyasi ze kabila pie ma Senegal ma Komorie o Arabu haini mruka ongena aid medical mwishi ya ukaya ngasina mbwana ya wani ya ze haki za hatu bonzi jubano mri atifanye muhara wa ukanga mjofungwa amjone ngwani polisi kabati polisi auka wanajamu heni mrungu fikiri ya maisha ya hatu na haini mrunge na akili rahane mwananya o wari trendeza wambari juhe rifanye mbwana za ho wanrika wana aid medical kwa tuhunra msaada wa ukalewa wa saidi wa bonzi juban wa uti malaba wa uti wa jufumu ngarjo hendele ya rifanye zimbwa na za hatu ngarjo uvuka karna ufungwa kayo de haki ya hatu nga mwona osu kwa lewa onu ukarihisa rihunru ushinzi haini mlona aid medical ngujingena redikisyo kujojo obalia 25 euro yende ya charge etike ya hahe beti na problem mdatu jo parso abisini hari mwalamanda hamdo parso abisini haswani crisi ba hawone police abange abukanza ari mjuzeni ka na mdo fanya jitihadi yekasi wana nyanyi auze association warambi ya rijuhe rifanye mbwana rifanye madamano iliri hunda ze haki za hatu mdo atirie ukansu henda mdo na rent ba hani mdo ngena hazi za ufanya no ya hundo wakati risaidie maisha hatu bangasa mansi ya kijeni sijoja dore mwalamanda aureka wahara horoha aureka karjuve ho wana oleko Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
On a gagné! On a gagné!
On a construit beaucoup de choses entre nous. Un comité s'appelle Espace Enfant. C'est pas comme garderie.
C'est un espace où les mamans ou les parents peuvent ramener leurs enfants. Et si une maman elle a un rendez-vous ou elle a des trucs à faire.
Chaque femme, elle garde 4 enfants. Après, quand ils gardent les enfants là, eux et l'autre, ils font leur travail, leurs démarches et tout. Et ça tourne. Ça veut dire, aujourd'hui, moi, j'ai gardé tes enfants. La prochaine fois, quelqu'un d'autre. Et comme ça. Et qu'est-ce qu'il est beau de ce collectif-là ? J'aime le tournage.
C'est un moyen de communiquer avec les mamans. C'est un lieu de rencontre, voilà. C'est un lieu de rencontre.
En t'écoutant, mais et aussi en écoutant, j'ai interviewé Aziza ou Fatima, moi j'avais vraiment la sensation qu'effectivement, dans ce qui se jouait avec le CHO3, que c'était bien, bien au-delà de l'entraide ou de l'aide, mais de proposer une autre manière de vivre ensemble. Quoi.
Oui, parce qu'on parle de démocratie citoyenne, mais toi, comme maintenant, c'était un concept pour moi. Mais là, vraiment, on le pratique. D'abord, on décide ensemble, on discute ensemble, ça déjà. Et puis, bannir toutes ces hiérarchies pauvres, pas riches, plus sachants, plus. Voilà, c'est aussi se mettre. Mettre d'une manière humble autant qu'être humain dans le quartier, ouvrir sa porte, voilà, c'est des choses comme ça qui sont intéressantes et puis dire qu'on a des colères, qu'on a le droit d'avoir des colères parce qu'il y a des choses qui vont pas et de dire on va essayer, on essaye au moins, on essaie de faire changer les choses et de se dire que les choses peuvent changer. Ben, la preuve, la réduction tarifaire pour la RTM, ça a donné de l'espoir pour d'autres causes, pour dire collectivement on peut faire changer les choses parce que c'est, on est dans une société où on est devenu dans cet individualisme malgré nous quoi. et que de faire ensemble, ça donne de la force les uns aux autres et de dire aussi on peut être un rapport de force.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir llevar. Ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Cielo, vamos.
Une série documentaire proposée par Les Yeux Grands Ouverts. Épisode 4, le CHO3. Merci à Amel, Aziza, Fatima, Nora, Frédérica pour le collectif des habitants organisés du 3e arrondissement, ou le CHO3, et à tous les participants et participants à la rencontre du Jardin Leva. Prise de son, Fatima Sissani. Montage, Fatima Sissani et Rinka. Mixage, Rinka.